Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose aujourd'hui de reprendre notre étude du mandat missionnaire et du processus d'évangélisation en parlant du sujet particulier du partage. Je parlerai en introduction du danger de la koinonite, si j'ose dire, et ensuite j'aborderai les points suivants. Premièrement, pourquoi est-il important de partager notre foi? Deuxièmement, comment partager? Troisièmement, quelques attitudes qui facilitent le partage. Quatrièmement, un modèle de partage et un exercice. Il y a un mot grec, koinonia, qui signifie partage, mise en commun, fraternité. Or, on observe que les paroisses souffrent régulièrement d'une dégénérescence de cette koinonia, et qui prend la forme de ce qu'on pourrait appeler une maladie, la koinonite. La communauté est à l'aise dans une fraternité fermée et apparemment chaleureuse, sans se préoccuper de ceux qui sont éloignés de l'Église. D'une certaine manière, on pourrait dire que le troupeau en Grèce, mais ce n'est pas le modèle de l'Église que Jésus nous a laissé. Car le modèle que Jésus nous a laissé est une Église, est un troupeau qui va vers l'extérieur, pour ramener les brebis égarées, les brebis qui ignorent le Seigneur, dans cette communion avec le Seigneur. Dans l'Église des apôtres, la prédication de l'Évangile avait la priorité absolue. Les chrétiens s'identifiaient eux-mêmes comme le peuple des envoyés, comme la lumière et le levain du monde. Ils reconnaissaient la fécondité de l'Église dans la prédication de l'Évangile, exactement comme le feu existe dans le fait de brûler, comme le feu existe dans le fait de brûler. Et nous avons en quelque sorte perdu notre feu en chemin. Comme le feu existe dans le fait de brûler, le chrétien existe dans le fait d'annoncer l'Évangile. Le chrétien existe dans le fait d'annoncer, de propager la bonne nouvelle. Un enjeu fondamental est donc d'amener ceux qui fréquentent l'Église à la concevoir comme mission et à se considérer eux-mêmes comme missionnaires. Jésus n'a pas invité les hommes à être soumis et à soutenir les institutions religieuses, mais plutôt à s'embarquer avec lui dans la mission de rédemption du monde. Il éloigna ceux qui renonçaient à participer de tout leur cœur à la mission, même s'ils étaient des admirateurs enthousiastes de ses enseignements. Chaque croyant avait un ministère, un sacerdoce à exercer envers ses semblables. C'est justement en cela que résidait le pouvoir évangélisateur de l'Église des origines, qui rendit possible l'annonce par toute la terre. Cette rénovation de nos mentalités et de nos objectifs s'accomplit avec l'aide de l'Esprit-Saint. Comme le disait un métropolite orthodoxe, Ignace de Latakié, « Sans l'Esprit-Saint, Dieu est loin, le Christ reste dans le passé, l'Évangile est une lettre morte, l'Église est une simple organisation, l'autorité est une domination, la mission est une propagande, le culte est une évocation, l'agir chrétien est une morale d'esclave. Mais avec l'Esprit-Saint, le cosmos, soulevé, gémit dans l'enfantement du royaume. Le Christ est là. L'Évangile est une puissance de vie. L'Église est une communion trinitaire. L'autorité est un service libérateur. La mission est une Pentecôte. La liturgie est mémorial et anticipation. L'agir humain est déifié. » Après cette introduction sur la koinonite, cette paresse à l'évangélisation, et sur l'importance de l'Esprit-Saint pour réveiller notre action, regardons cette quatrième étape du filet. Il y avait 8 étapes, vous vous souvenez, la définition de l'oïkos, puis la prière, le service, le partage que nous allons voir aujourd'hui, l'explication, l'invitation, l'entrée dans la cellule, et puis la participation active à la paroisse. Donc aujourd'hui, le partage. Pourquoi est-il important de partager notre foi? Parce que le témoignage de vie doit être éclairé, justifié. Saint Pierre disait dans sa première épître, au chapitre 3, au verset 15, qu'il fallait donner les raisons de son espérance. Il fallait expliciter par une annonce claire et sans équivoque du Seigneur Jésus la bonne nouvelle proclamée par le témoignage de vie. Donc le témoignage de vie doit être tôt ou tard éclairé par une parole de vie. Remarquons que ce partage avec le frère de notre oikos ne désigne pas tant quelque chose que quelqu'un. En fait, c'est le Christ lui-même que l'on partage. Je partage Jésus dans ma rencontre personnelle avec lui, vivant, réel, présent. Je partage la présence de Jésus dans ma vie en continuelle transformation grâce à lui. Je partage la personne même de Jésus et ses œuvres dans la vie de tous et dans le monde. Et tout cela, je le fais pour rendre gloire au Créateur de toutes choses et de tout bien. Je veux rendre gloire au Créateur, mais je veux aussi inciter le frère que nous sommes en train d'évangéliser à essayer de faire la même chose. Comment est-ce que le partage survient? Souvent en réponse à une question du frère que je suis en train de servir. Mais cela peut aussi passer par l'attention de ma part à susciter chez ce frère une question qui me permette ainsi de partager mon expérience de foi. La question posée par le frère est donc essentielle, mais cela sans négliger le fait que je suis appelé à susciter des questions par mon comportement, par ma façon de vivre. Comment doit être notre partage? Il doit être A, B et C. Comment cela? A, authentique. Il est le partage réel de ma vie. C'est la seule chose que personne ne puisse contester. B, il doit être bref. Un partage doit être efficace et aller à l'essentiel. S'il est prolixe, s'il est bavard, il perd son effet. Je ne dois pas raconter ma vie, mais seulement témoigner de l'œuvre de Dieu en moi. C'est pourquoi le partage porte uniquement sur deux points, comment j'ai rencontré Jésus et ce qu'il a fait pour moi. Bref, c'est christocentrique. Il est le reflet d'une vie centrée sur Jésus. Notre partage doit rendre gloire à Dieu et non pas à nous-mêmes. Il doit conduire notre auditeur à fixer son esprit et son cœur sur Jésus jusqu'à désirer faire l'expérience qu'il est vivant, qu'on peut le rencontrer. Comme dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, au verset 5, « Ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ Seigneur que nous proclamons. » Ou comme le dit la Vierge Marie dans son Magnificat, « Mon âme exalte le Seigneur ». Marie est grande précisément parce qu'elle ne veut pas se rendre elle-même grande, mais elle veut rendre Dieu grand. Elle sait qu'elle contribue au salut du monde, non pas en accomplissant son œuvre, mais seulement en se mettant pleinement à la disposition des initiatives de Dieu. Voilà donc notre partage A, B, C, authentique, bref et christocentrique. Voilà maintenant quelques caractéristiques fondamentales du partage. Première caractéristique, courageux. Rappelons-nous que le courage n'est pas absence de peur. Le courage, c'est d'entreprendre une action qui présente des risques, même avec le Seigneur. Le partage, toujours soutenu par la prière, se vivra donc ainsi. C'est saint Paul qui dit cela dans la deuxième à Timothée, au premier chapitre, les versets 7 et 8. « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Courageux. Deuxième caractéristique, rempli de sagesse, à travers la parole de Dieu. Dans la conversation, la parole de Dieu vaut mieux que notre discours. Le pape Paul VI écrivait « Un signe d'amour sera aussi l'effort de transmettre aux chrétiens, non pas des doutes et des incertitudes nées d'une érudition mal assimilée, mais des certitudes solides, solides parce qu'ancrées dans la parole de Dieu. Les fidèles ont besoin de ces certitudes pour leur vie chrétienne. Ils y ont droit en tant qu'enfants de Dieu. » Donc, rempli de sagesse parce que appuyé sur la parole de Dieu. Troisième caractéristique, amicale. Ne prenons jamais un ton de reproche ou de jugement. Rappelons-nous notre passé, quand nous avons été acceptés pour ce que nous étions. Rappelons-nous la compréhension et l'amitié que nous avions trouvée chez ceux qui nous conduisaient lentement vers la découverte de Jésus. En saint Jean, au chapitre 15, verset 15, Jésus le dit, « Je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Donc cette caractéristique de l'amitié, le témoignage amicale. Quatrième caractéristique, humble et doux. Le Seigneur agira au moment important. Il nous revient seulement d'avoir un cœur qui imite celui de Jésus. Rappelez-vous ce que dit Jésus, toujours au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ou en Matthieu 11, verset 29, « Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Enfin, cinquième caractéristique, le témoignage, le partage, en regardant le frère dans les yeux. Regarder dans les yeux est un signe de sincérité et d'amour. Il s'agit de faire nôtre le comportement de Jésus envers le jeune homme riche, auquel il était sur le point de révéler la chose la plus importante. Marc, au chapitre 10, le verset 21, nous dit « Jésus le regarda et se prit à l'aimer ». Voilà pour ces quelques caractéristiques du partage. Courageux, rempli de sagesse, amical, humble et doux, en regardant le frère dans les yeux. Dans notre partage, voilà, il y a vraiment deux éléments qui ne peuvent pas manquer, je le répète, la parole de Dieu et le témoignage de vie. Souvenons-nous que la foi s'affermit lorsqu'on la donne. Du coup, nous pouvons porter notre témoignage dans la prière. Et j'allais dire même, nous pouvons demander au Seigneur de nous donner des occasions pour pouvoir témoigner. Nous pouvons lui demander dans la prière, « Seigneur, donne-moi l'occasion de témoigner de tes merveilles dans mon existence. » Nous découvrirons alors dans le témoignage aussi la joie renouvelée d'avoir rencontré, d'avoir admiré l'œuvre du Seigneur. En même temps, souvenons-nous que dans la démarche du partage, nous devons être en accueil du temps qu'il faut à l'autre pour l'entendre et pour se laisser travailler. Nous devons toujours accueillir et respecter la situation spirituelle des personnes qui sont évangélisées, respecter leur rythme, leur cheminement. On ne peut pas les forcer. De la même façon, il arrive que nous soyons les témoins d'un partage qui nous est fait. Et donc, ayons également cet esprit d'écoute, d'écoute que nous aurions aimé d'ailleurs pour nous-mêmes, parce que ce sera peut-être également l'occasion de la personne en retour d'ouvrir son cœur dans ce qu'elle perçoit de l'action de Dieu. Et également, lorsque quelqu'un s'ouvre à nous de l'action de Dieu dans sa vie, regardons-le avec estime. Ne nous lançons pas dans une espèce de besoin de surenchère comme si nous étions en compétition l'un avec l'autre pour trouver celui à qui Dieu aurait fait le plus de grâce. Voilà, que notre c'est une attitude aussi qui favorise le partage, une attitude de prière, d'accueil, de respect de la situation spirituelle de l'autre, de joie d'avoir rencontré Jésus, et puis cette disponibilité à l'écoute, cette disponibilité à l'estime lorsqu'on nous a partagé quelque chose. Enfin, je voudrais vous proposer, pour terminer cet enseignement, un modèle exemplaire de partage. Parce que un partage, pour être efficace, doit comporter trois étapes. Comment nous étions avant de rencontrer Jésus, première étape. Deuxième étape, comment nous avons rencontré Jésus. Et troisième étape, comment notre vie a changé après avoir rencontré Jésus. Eh bien, ce modèle, vous pouvez le trouver dans les Actes des Apôtres avec l'expérience de saint Paul. En effet, si vous allez regarder en Acte 26, les versets 9 à 11, vous verrez comment il était avant la rencontre avec Jésus. En Acte 26, les versets 12 à 18, vous verrez comment il a rencontré Jésus. Et puis en Acte 26, 19 à 23, vous verrez comment sa vie a changé après la rencontre avec Jésus. Eh bien, le petit exercice, c'est le suivant, c'est de lire de votre côté, pas forcément en séance, mais de lire comment saint Paul partage son expérience, et puis, à cette lumière, vous-même, réfléchir, et peut-être écrire quelques notes, comment étions-nous avant de rencontrer Jésus ? Comment avons-nous rencontré Jésus? Comment notre vie a changé et change après avoir rencontré Jésus? Le partage en ces trois étapes doit susciter cette certitude dans le cœur du frère qui vous écoute. Ce que Dieu a fait pour toi, il peut le faire aussi pour moi. Je vous souhaite de bons échanges.